Et ce soir, mon cher Xavier, d'abord, je vous salue.
De même, bonsoir.
Ce soir, un acronyme, oui, DEMOS.
On va réhabiliter une nouvelle notion, une ancienne notion plutôt, c'est utopie, puisque c'est le mot qui revient le plus souvent pour qualifier ce fameux DEMOS, cette expérience d'orchestre de jeunes défavorisés. Ce mot, c'est celui qui est réutilisé par Michel Guérin dans son éditorial du Monde en début de semaine. Il faut dire que ces orchestres sont vraiment un succès très régulier, puisque en 7 ans, le nombre de ces orchestres DEMOS est passé de 4 à 30 en France. Ce sont 3000 enfants de 7 à 14 ans qui sont concernés, de la Guadeloupe à Pau, en passant par Montbéliard et Paris. Et comment, en effet, ne pas être aussi séduit et ému par ces enfants heureux qui jouent de la musique et qui ne l'auraient sans doute jamais pu, ou du moins difficilement. Et puis DEMOS, c'est très joli aussi, c'est le peuple et c'est l'acronyme, vous l'avez dit tout à l'heure, de ce dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Un projet défini par l'ancienne ministre de la Culture, Audrey Azoulay, comme un projet d'émancipation. Alors, émancipation, c'est aussi la responsabilisation pour les enfants, puisque DEMOS se présente comme un contrat implicite entre l'enfant et un orchestre qui n'existe pas encore. En fait, contre un don d'instrument pendant une période de 3 ans, l'enfant s'engage à 4 heures de formation par semaine. C'est un concentré de vie en société, écrit Michel Guérin. Et puis, DEMOS, c'est aussi, c'est intéressant, l'histoire d'un apprentissage technique et musical qu'on pourrait dire lui-même rénové. C'est ce qu'on peut voir à travers les vidéos que la Philharmonie de Paris, qui possède un de ses orchestres, qui anime un de ses orchestres plutôt, met en ligne. Pas de solfège d'abord, qui, je cite Michel Guérin toujours, filtre les élèves au profit de ceux qui viennent des milieux aisés. Pas d'instrument non plus, du moins directement. Alors, on commence par des jeux d'orchestre, des jeux de groupe, des parties chantées, en dansant ce qu'on chante aussi, de sorte à former chez l'élève une mémoire. Après, on passe à la technique instrumentale. Puis c'est un travail d'ensemble et par pupitre d'instruments. Là, on retombe un peu sur le travail d'un orchestre d'adultes classiques, sans oublier de chanter, là encore, ou danser les parties. La partition, elle arrive seulement la deuxième année. On commence par de la musique baroque pour que le langage harmonique soit plus simple, disait Patrick Toffin, qui est responsable des pratiques orchestrales. Ensuite, on passe aussi aux musiques du monde, là en partenariat avec l'UNESCO. On le voit par exemple avec l'usage à la Philharmonie de Paris de ce Tari Saman, c'est une danse d'Aceh en Indonésie. Après 3 mois, donc, les enfants seulement commencent le travail instrumental. Toujours pour Patrick Toffin, l'arrivée des instruments permet de mettre en lien des actions sonores et une spatialisation qu'on va retrouver après dans le grand orchestre. Et c'est le grand orchestre qui est à l'origine de ce travail, qui va nourrir ce qui se passe à l'intérieur des ateliers. Alors, cela est très bien, mais ça demande un lourd encadrement. 20 musiciens, 2 chefs de chœur et 1 danseur pour la seule orchestre de la Philharmonie de Paris avec 105 élèves. Pendant 6 semaines, l'apprentissage est fait par chef de chœur et danseur. Les musiciens, eux, font entendre des timbres au début pour que l'instrument, justement, devienne quelque chose de personnel à l'enfant, poursuit Patrick Toffin, avant qu'il l'ait entre les mains de façon plus pérenne. Notre objectif, ou un de nos objectifs principaux, est d'aider à la construction du groupe pour que l'enfant se sente partie prenante. Alors, voilà, c'est un encadrement lourd, 260 000 euros quand même par an pour cet orchestre de la Philharmonie de Paris. Un financement tripartite quand même assez modèle entre l'État, la région et puis la Philharmonie elle-même, même si c'est beaucoup pour 3000 enfants, insiste Michel Guérin. Je termine en expliquant que cet orchestre DEMOS n'est pas le seul du genre ces dernières années en France. Lui-même est inspiré d'une initiative vénézuélienne bien connue, l'orchestre El Sistema, et il a aussi essaimé en France cet orchestre El Sistema, mais il y a aussi l'opération Fine Oreille, dont on pourra reparler, qui est menée depuis 2 ans maintenant avec l'Opéra de Lille, et El Sistema continue de s'étendre et promouvoir son projet social, comme en Grèce, là où il vient de s'implanter dans des camps de réfugiés. Je vous renvoie à un long reportage de Dominique Boutel sur France Musique. Voilà, finalement, tout n'est peut-être pas aussi simple, car il s'agit, je l'ai dit, d'un choix pédagogique radicalement différent de celui qui est prôné par l'école et les conservatoires. C'est aussi une expérience, c'est expérimental, sans objectif chiffré lourd. Et puis, selon Michel Guérin, on aurait aussi suggéré à Laurent Bell, donc le directeur de la Cité de la Musique, de la Philharmonie de Paris, pardon, de renoncer aux instruments instruments au profit du seul chant. En dernier cours même, on l'accuse d'élitisme pour avoir osé confier des instruments classiques réputés difficiles à des enfants réputés je ne sais pas quoi. Précisément, répond Laurent Bell, c'est la condition de la valorisation plutôt que la flûte à bec obligatoire qui, termine Michel Guérin, dégoûte bien plus de la musique qu'elle n'attire. Alors pour quels résultats musicaux, je vous le dis juste, ce n'est pas l'excellence, souligne Michel Guérin, mais la musique de Mahler ou de Beethoven se reconnaît quand même. Et puis surtout, à la fin, la moitié des enfants semble s'inscrire dans un conservatoire de musique. Alors peut-être l'intérêt n'est-il pas là. Je ne vous demanderai pas si Demos est une réussite et si ça vaut le coup, quoique. Mais qu'est-ce que pourrait apporter en retour cette expérience à la pédagogie musicale, voire plus largement aux politiques de démocratisation culturelle?
Ah, mais il faudrait d'abord qu'il y en ait. Non, je plaisante. Bien sûr. Non, il faudra qu'elle soit développée quand même. Mais bon, il y a un nouveau gouvernement qui s'attelle à la tâche. Donc toutes les bonnes idées.
En musique,
ah, sont, voilà, normalement, voilà, la sont, musique devrait
les idées
faire
sont bonnes à prendre.
Belle rentrée à l'école, donc voilà, ce serait dans.
Non, on, Emmanuel Giuliani.
Il est difficile d'être contre, évidemment. et c'est vrai que c'est une expérience qui, au début de son lancement, a suscité un peu de scepticisme en disant, ben voilà, on va calquer dans une réalité tout autre cette aventure vénézuélienne qui était née, évidemment, dans un contexte géographique,
qui, heureusement
politique,
pour nous,
social,
n'est pas le même.
Etc., qui n'est pas le même. Et puis, on a vu que eh bien, ça se pérennisait, que les musiciens professionnels qui encadraient ces projets continuaient à le faire, et c'était pas uniquement entre guillemets pour se donner bonne conscience et répondre à ces éternelles questions. Vous pratiquez un art élitiste, il faut expier ce terrible péché en diffusant l'art en question. Je suis un peu gênée par la phrase sur le solfège. Jamais on dirait ah ben on ne va pas faire de lecture parce que pour des cours de littérature parce que c'est élitiste. Je veux dire, le solfège n'est pas plus élitiste, c'est le fait de ne pas pouvoir la prendre et généraliser son apprentissage qui peut être élitiste. Mais le solfège en lui-même est une
peut-être
manière
en tout début
de
ne pas commencer et c'est le sens dans lequel l'entendait Michel Guérin.
Le solfège ayant écouté beaucoup d'enfants inscrits au conservatoire.
Oui, mais là, il faut peut-être se poser aussi une question des méthodes d'apprentissage,
voilà,
etc.
C'est ce que fait la question.
De toute façon, tout ce qui remet en effet en question les pédagogies, qui les compare, sachant qu'il n'y a pas de vérité unique, est une très bonne chose. Après, et c'est ça qui est très encourageant, c'est que si un enfant sur deux a envie de continuer et peut le faire et de manière tout à fait normale, naturelle et sans qu'il y ait de frein ni économique ni sociaux à une pratique de la musique, ça évidemment ça suffit à justifier l'opération.
Oui, parce
tout à fait.
J'ai envie de dire parce que parallèlement à cela, il y a les actions sur le terrain, donc les enfants sont aussi encadrés par tous les réseaux associatifs, etc. sur le terrain. Mais il y a également beaucoup de conservatoires, et c'est là que ça prouve quand même que dans les conservatoires, on n'est pas complètement borné. Et il y a beaucoup de conservatoires qui se sont ouverts également à l'accueil de ces enfants avant même qu'ils ne s'inscrivent au conservatoire. C'est-à-dire qu'ils se familiarisent avec les locaux, avec le fait de voir d'autres enfants.
Un premier accueil,
Exactement. Donc effectivement, quand tout le monde s'y met, tout le monde est de bonne volonté, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Bien
et d'ailleurs, ils avaient tablé sur par exemple, une casse énorme au niveau des instruments, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des enfants qui ne peuvent même pas rapporter l'instrument chez eux, par exemple violoncelle, parce qu'il n'y a pas la place matériellement de le mettre dans leur chambre. Donc, les instruments, dans ce cas-là, sont stockés dans des endroits où ils peuvent avoir accès quand ils le veullent. Et donc, ils se sont quand même rendus compte que le bri d'instruments est très, très minime. Ce qui prouve quand même que les enfants font attention aux instruments qu'on leur confie, et qu'il y a ce sentiment de fierté, d'appartenir à quelque chose auquel, effectivement, a priori, ils n'avaient pas accès, et la fierté de la famille et des parents aussi. Il faut les mères, les pères, les cousins, etc., qui viennent, quand ils venaient alors à Pleyel, puis ça avait commencé à Pleyel, maintenant la Philharmonie de Paris, qui viennent accompagner leurs rejetons, des gens qui, pour certains, n'étaient jamais venus à Paris, alors qu'ils habitent dans les banlieues très proches. Donc je pense qu'il y a quand même, il y a aussi tout ce lien social qui se fait, qui n'est pas nul, qui n'est pas simplement utopique, qui n'est pas une idée. Ça existe réellement. Alors après, effectivement, assister au vos concerts, comme nous avons tous pu le faire. Et oui, on reconnaît Bizet, on reconnaît. Bon, après, je pense.
Non, mais c'est comme Opéra Junior quand voilà. On est dans le film L'Opéra de Jean-Stéphane Brond. Vous voyez ces jeunes gens qui voilà, qui faisaient cet apprentissage. Le concert, évidemment, c'est pas la performance en tant que telle, mais c'est un moment de réunion et de valorisation et d'estime de soi. C'est quand même une chose absolument essentielle. Vous voyez, Martinet ?
Oui, c'est un aspect extrêmement important de ce genre de programme d'expérimentation. Et finalement, si on se pose la question de savoir s'il y aurait peut-être une concurrence entre deux dispositifs pédagogiques, un ancien et un nouveau, sans doute pas, puisqu'ils se conçoivent beaucoup comme des stages, finalement, et vous le suggériez un peu, Marie-Aude, des stages, des initiations, même longues de toute façon, mais qui ne comptent pas se substituer à des formations. Et c'est très clair, par exemple, dans le cas de l'opération Fine Oreille à Lille. Alors là aussi, il n'est pas question d'instruments, mais ils choisissent 200 élèves des quartiers défavorisés pour produire deux ou trois fois par an, je crois, un opéra, soit que ce soit une création, soit que ce soit des reprises. Ça ne coûte pas très cher, c'est 15 000 euros de la part de la DRAC pour ce qui était des financements 2015, et ça fonctionne, là encore. Nous mesurons déjà les effets en classe, cela a donné aux enfants une certaine assurance, a créé du lien social avec des familles aussi, qui n'entraient pas à l'école, disait l'adjointe à l'enseignement de Marc Ambarol.
Voilà.
Tout ça sur la base du volontariat, et peu de défections finalement, par rapport au...
Et puisqu'on est à Radio France, il faut rappeler aussi que la maîtrise de Radio France a bondi, c'est...
Exactement,
voilà.
Ce principe.
Et voilà, c'est exactement ce principe. Et là aussi, avec un niveau d'excellence qui là est tout à fait réel. Donc vraiment, toutes ces initiatives, en effet, comme vous le dites, il faut qu'elles se surajoutent, qu'elles dialoguent entre elles et surtout qu'elles ne s'opposent pas les unes aux autres.
Ouais, non. Beaucoup de bonne volonté. Ben voilà, et donc c'est la bonne volonté Xavier Martinet aussi que je remercie parce qu'il a suppléé l'absence provisoire de Lucille Comeau pour tenir ce petit salon jusqu'à la fin de la saison. Lucille qu'on salue bien sûr avec sa petite famille et qu'on retrouvera à l'automne, pas tout à fait à la rentrée, mais grand merci à vous.
C'était Xavier avec Martinet. Plaisir avec vous tous et vous toutes aussi.
Bon, je vous laisse fermer le petit salon.
Voilà, au revoir chers auditeurs.